Mon nom est Chantal Henry, bienvenue à l'émission D'ici d'ailleurs, un voyage sonore à la diversité culturelle. Ensemble, nous allons découvrir la diversité et les cultures du monde présentes à Drummondville. Notre sujet cette semaine, l'immigration de longue date, c'est-à-dire les premières générations d'immigrants qui sont venus à Drummondville. Où en sont-ils aujourd'hui? Nous recevons en entrevue M. Nagui Abachi, directeur général du Centre de santé et des services sociaux de Drummond. Au cours des dernières décennies, des gens de partout dans le monde ont choisi le Québec pour s'établir. Certains ont même choisi Drummondville comme terre d'accueil. Au fil du temps, les raisons qui ont amené ces personnes à immigrer chez nous ont évolué selon les événements historiques, économiques et même aujourd'hui environnementaux. Les défis auxquels elles doivent faire face ne sont pas les mêmes non plus. Actuellement, notre ville est enrichie par la présence d'environ 40 communautés culturelles. Beaucoup d'entre elles demeurent ici depuis longtemps. Qui sont ces personnes et où en sont-elles rendues aujourd'hui? Et maintenant, pour en savoir plus sur le sujet, passons au Zoom sur la question de la semaine.
L'histoire de l'immigration à Drummondville est un livre dont les pages ne sont pas écrites sur du papier, mais bien dans la mémoire des personnes immigrantes qui ont fait de Drummondville leur terre d'accueil et dans les souvenirs des gens qui les ont accueillis et côtoyés au fil des années. Depuis nombre de décennies, Drummondville a accueilli des gens venus de la Hongrie, de la Pologne, de l'Italie, de l'Afrique, d'Haïti, du Maghreb et de la Suisse. Ces premières générations d'immigrants qui ont donné naissance à d'autres générations les succédant, se sont tellement bien intégrés qu'il est parfois difficile de savoir qu'ils ne sont pas originaires de Drummondville. Cependant, ils sont là. Ils participent activement à la vie économique, sociale et culturelle de Drummondville. Ils ont été témoins des changements et de l'évolution qu'a connue la société québécoise. D'un côté, dans la façon d'intégrer les nouveaux arrivants, et de l'autre, la façon dont ces gens se sont intégrés à leur nouveau milieu.
Et pour nous parler de son expérience, M. Nagui Abachi, directeur du Centre de santé et de services sociaux Drummond. M. Abachi est arrivé à Drummondville il y a plus de 25 ans, originaire de l'Égypte, de Ismailia, si je prononce bien.
C'est bien ça, oui.
Donc, ça fait 45 ans qu'il est au Québec. Il a étudié à l'École nationale d'administration publique à Trois-Rivières. Bonjour, M. Abachi.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission D'ici d'ailleurs.
Merci.
En premier lieu, pourriez-vous m'exposer votre situation personnelle? Finalement, je veux savoir c'est quoi votre histoire d'immigration.
Dans les années 60, on vivait en Égypte, ma famille et moi, et c'est mon père qui a eu cette idée d'immigrer. Il l'a exposé à toute la famille. On est trois garçons. Je suis l'aîné. J'avais 20 ans. Et mes frères un peu plus jeunes que moi. Et ça a été une décision familiale que d'immigrer. Et on avait un choix à faire parmi 5 pays qui recevaient des immigrants. Et ça a été aussi un choix familial que de choisir le Canada et particulièrement le Québec parce que mes parents ne parlaient que le français comme langue seconde.
Donc, vous n'aviez pas cette barrière de langue-là lorsque vous êtes arrivé?
Heureusement, je dirais. C'est un choix, comme je disais, oui.
J'aimerais savoir le contexte familial dans lequel vous avez immigré. Qu'est-ce que ça signifiait finalement immigrer à cette époque-là, quand vous êtes arrivé au Québec?
Ça voulait dire, pour nous, laisser tout en arrière et recommencer à zéro. Et quand je dis à zéro, c'est vraiment à zéro. On est arrivé ici avec notre linge personnel, donc du linge. On n'avait même pas droit à apporter avec nous du linge neuf. Et avec 10 $ chacun, donc 50 $ pour toute la famille. Et on a recommencé notre vie avec ça.
Lorsque vous êtes arrivé, sur Montréal, est-ce qu'il y a eu des gens pour vous accueillir?
Heureusement, il y avait une famille qui avait immigré avant nous et qui nous ont aidés dans les premiers jours. Ils ont loué un appartement pour nous autres sur la rue Saint-Laurent à Montréal et ils avaient fait une première épicerie pour nous. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre vie au Québec.
Est-ce que vous avez trouvé rapidement du travail?
Dans les cinq, on a cherché beaucoup du travail dès les premiers jours parce que c'était important pour nous que, de ne pas être à la charge du nouveau pays. Et c'est un de mes frères qui avait fait des études techniques assez poussées en mécanique, électricité et en dessin industriel. Et malheureusement, parce qu'il n'avait pas d'expérience canadienne, il n'a pas pu trouver du travail dans son domaine. Il a travaillé comme laveur de vitres. Et c'est lui qui a commencé à nourrir la famille.
Est-ce qu'il a pu retravailler dans son domaine? Est-ce qu'à cette époque-là, les études étaient reconnues?
Les études étaient reconnues, mais ça a pris 2 ans pour vraiment travailler dans son domaine comme tel. Pour lui, ça a pris 2 ans. Pour mon père, ça a pris beaucoup plus longtemps que ça. Il était déjà dans la cinquantaine. Et pour nous, les deux autres frères, on voulait plutôt étudier. Donc, on a travaillé l'été, puis on allait à l'université le reste du temps.
Est-ce que vous aviez commencé déjà vos études dans votre pays?
Oui, mon frère et moi, on avait déjà commencé des études d'ingénierie en Égypte. Et avant d'arriver ici, on avait fait des demandes à toutes les universités du Québec. Et c'est l'université McGill qui nous avait acceptés. Donc, c'est là qu'on a complété nos études d'ingénierie.
Donc, si je comprends bien, vous avez débuté des études d'ingénieur. Aujourd'hui, vous êtes dans le domaine de la santé. Donc, c'est un petit peu différent, dérivation de parcours?
Mais oui, des fois dans la vie, on fait des gros changements. L'immigration s'en est un. Et moi, dans ma carrière, j'ai fait un changement important. Après avoir pratiqué l'ingénierie pendant 10 années, j'ai décidé que je préférais l'administration. Et j'ai repris des études. J'ai fait un baccalauréat en administration et une maîtrise aussi dans ce domaine-là, ce qui m'a permis de travailler en administration dans le domaine de la santé.
Aujourd'hui, vous êtes à Drummondville, ça fait plus de 25 ans. Au départ, vous étiez à Montréal. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Montréal? Qu'est-ce qui vous a amené dans les régions du Québec?
Montréal est une belle grande ville, mais je sentais que ça ne représentait pas le Québec que je voulais connaître. Et dans ce sens-là, je me suis dit, je suis venu au Québec et je voudrais connaître le vrai Québec. Et c'est une décision personnelle que j'ai prise de quitter Montréal et d'aller travailler ailleurs. Et mon premier travail en dehors de Montréal, ça a été à Shawinigan. Par la suite, j'ai travaillé aussi à Trois-Rivières, à Latuc et enfin à Drummondville. Donc, toute la région de la Mauricie et du centre du Québec, je la connais très bien.
Aujourd'hui, comment vous considérez-vous? Est-ce que vous vous voyez plus comme un Égyptien, comme un Québécois égyptien? C'est quoi votre identité personnelle à travers tout ça?
Je vais peut-être vous surprendre un peu avec ma réponse. Je ne nierai jamais que je suis d'origine égyptienne. C'est même une fierté pour moi de dire que je suis de descendance pharaonique. Mais je me considère complètement Québécois aujourd'hui. Peut-être pas pure laine, mais presque. Après 45 ans, je crois que je peux le dire, que je ne suis pas de souche, mais que je vis et que je respire comme un Québécois.
Donc, en tant que Québécois, je vais vous appeler en tant que tel, donc votre identité est québécoise, vous avez quand même grandi dans une famille où il y avait des valeurs égyptiennes. Comment vous avez éduqué vos enfants? Est-ce que c'est vraiment une éducation purement québécoise? Vous avez gardé quand même les valeurs parce que vous le dites, vous ne reniez pas le fait que vous êtes égyptien. Donc, l'éducation de vos enfants s'est promenée à travers l'ensemble de ces cultures-là?
J'étais marié à une Québécoise, donc c'est certain que les valeurs québécoises étaient présentes. Mais je peux dire que quand même qu'il y a peut-être 3 valeurs qui, pour moi, sont un peu différentes entre l'Égypte et le Québec et que j'ai voulu garder ces valeurs-là pour moi et pour mes enfants aussi. La première, c'est la valeur de l'argent. Pour moi, l'argent n'est pas si important que ça. L'argent, elle arrive, on la dépense, puis le lendemain, on a d'autres argent qui arrivent, puis c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas une grande valeur pour moi, l'argent. Et j'ai toujours vécu comme ça. Et mes enfants, je crois qu'ils ont pris cette valeur-là aussi. L'autre, c'est le temps. Pour moi, ici en Amérique du Nord, le temps est très important. On veut tout pour hier.
Oui.
Et je n'ai jamais pu m'adapter à ça entièrement. J'ai essayé, mais jamais été capable de le faire. Je crois que mes enfants aussi m'ont vu agir et c'est une de leurs valeurs que le temps arrange les choses, que demain, le problème pourrait se régler, et ainsi de suite. Ça ne m'a pas toujours servi, mais je dirais qu'en général, je me suis senti mieux avec cette valeur-là que de courir après le temps tout le temps. Et finalement, une valeur très importante, c'est la famille. En Égypte, la famille était très importante et je crois que cette valeur-là est demeurée en moi et avec mes enfants.
Est-ce que vous avez, j'imagine qu'à travers toutes ces années-là, vous êtes retourné avec vos enfants dans votre pays, votre pays d'origine finalement, l'Égypte. Est-ce que vous avez encore de la famille là-bas?
Non, la plupart de mes oncles ont immigré par la suite de mon arrivée ici au Québec. Donc, j'ai plusieurs cousins qui habitent au Québec, en Ontario ou aux États-Unis. Et il ne me reste presque plus de famille là-bas. Ce qui ne m'a pas empêché de retourner en 45 ans deux fois, dont une fois l'année dernière, un voyage assez spécial où, grâce à Internet, on a pu rejoindre mes amis d'enfance dans tous les coins du monde et on s'est retrouvés à Ismailia, 55 personnes qui venaient de partout dans le monde et on est allé visiter notre école, notre paroisse et des vieux souvenirs qui sont remontés et qu'on a vécu ensemble en Égypte.
Comment vous avez vécu ça, finalement, du côté émotif? Ça devait être émotif de revoir, parce que je comprends bien que vous êtes retourné seulement deux fois, ce qui est déjà quand même impressionnant en 45 ans. Au niveau émotionnel, de revoir tous ces gens-là, de revoir son pays, ça devait être assez intense.
C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est un voyage qui était rempli d'émotions, surtout les premières journées de rencontrer du monde qu'on n'a pas vu depuis 45 ans et qu'on avait non seulement perdu de vue, mais ne sachant pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. De la première nuit, je peux vous dire que je n'ai pas dormi à rencontrer mes anciens amis, leur famille, savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et le lendemain, quand on est allé visiter notre école, ça a été un moment rempli d'émotions, visiter mon école primaire, ainsi de suite. Disons que c'est un voyage où j'ai pleuré quatre fois durant ces 19 jours.
Oh, je comprends bien, c'est compréhensible. Est-ce que tout le monde a à peu près le même parcours? Bon, dans vos amis, vous dites aux quatre coins du monde, il y avait des gens vraiment qui s'étaient, ils étaient tous partis de l'Égypte, si je comprends bien?
Oui, dans ces années-là, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'immigration de l'Égypte, effectivement.
Est-ce que la majorité des gens avaient immigré au Québec ou ça s'est vraiment éparpillé à l'intérieur du monde?
Il y en a beaucoup au Québec, mais je dirais c'est à travers le monde aussi que, comme je vous disais tantôt, il y a cinq pays qui acceptaient l'immigration, l'Australie, les États-Unis, le Canada, le Brésil et, si ma mémoire est bonne, la France aussi. Donc, c'est surtout ces pays-là où les gens sont allés.
Eh bien, l'entrevue est super intéressante. Je dois quand même vous dire qu'on doit aller une courte pause, malheureusement, mais je vous promets qu'on revient au retour avec M. Nagui Abachi, directeur du C3S de Drummond.